Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti. Jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une, une élection de maréchal pour Jordan Bardella à la présidence du Rassemblement National. Marine Le Pen l'a d'ailleurs annoncé elle-même.
Et avec 22 130 voix, soit 84,84%, Jordan Bardella est élu président.
Voilà, c'est fait. À 27 ans, Jordan Bardella, qui est en train d'achever son discours en ce moment, devient donc le troisième président de ce parti en 50 ans d'existence, le premier à ne pas s'appeler Le Pen. On va revenir dans un instant sur cette élection très large, mais qui fait quand même tiquer quelques cadres. Dans l'actualité de ce samedi également, un faux départ pour la route du Rhum en raison de la météo. Les organisateurs ont préféré le reporter. Les concurrents qui devaient s'élancer demain de Saint-Malo pour la Guadeloupe devront donc attendre mardi ou mercredi. La décision sur la date précise devrait être annoncée dans la soirée. Emmanuel Macron n'assistera donc pas au départ. Du coup, il part plutôt que prévu à Sharm el-Cheikh pour la COP27 qui commence demain. La première des 27 conférences sur le climat de l'ONU qui est organisée en Afrique. Les prisons françaises confrontées aux livraisons par drone pour les détenus. Après Fresnes, Brest, c'est à Séquedin dans le Nord que 3 drones chargés de drogue et de matériel téléphonique ont été interceptés. Le phénomène inquiète les autorités. Un plan national prévoit le déploiement de dispositifs de brouillage. Un triste anniversaire à Marseille. Il y a 4 ans exactement, la catastrophe de la rue d'Aubagne où 2 immeubles s'étaient effondrés faisant 8 morts et 2 blessés. Mais des bâtiments du quartier menacent encore. Un village de Bretagne coupé en 2. Kayak, divisé autour de l'accueil de réfugiés dans cette commune de 2000 habitants. 2 manifestations s'y sont tenues cet après-midi avec 200 gendarmes mobilisés pour éviter les tensions. Le sport avec une défaite rageante pour les joueuses du 15 de France, battues d'un petit point 25-24 ce matin par les Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce soir, côté homme, la belle affiche, France-Australie avec un record en vue, une 11e victoire d'affilée. Le tennis à Bercy, le Danois Holger Rune en finale demain du Masters 1000 de Bercy. Face à lui, il y aura Djokovic ou Tsitsipas. Ils s'affrontent en ce moment et nous irons donc sur place à Bercy. Le foot, la 14e journée de Ligue 1. Depuis 17h, Ajaccio reçoit Strasbourg. C'est la mi-temps et il y a eu déjà beaucoup de buts puisque les Corses mènent à la mi-temps 4 buts à 2. Ce soir, 21h, ce sera Angers-Lens à suivre dans RTL Foot Rugby, pardon, animé par Christophe Paco. Le quintet de Deauville, 7, 13, 2, 8 et 10. Et puis le temps, donc la route du Rhum, le départ a été reporté. Bonsoir Valérie Quintin, ça veut dire que ça souffle à l'ouest. Hein ?
Bonsoir Vincent, oui ça va souffler et puis il va pleuvoir aussi. Une dégradation pluvieuse bien active concernera le nord-ouest demain avec des pluies d'ailleurs assez soutenues entre la Loire-Atlantique et la Normandie, des vents forts près des côtes jusqu'à 70 km/h en pointe. Dégradation qui s'étendra de la Gironde au Hauts-de-France dans le courant de la journée en passant par la région centre ou encore par le bassin parisien, mais les pluies seront quand même en très nette atténuation. Et puis pendant ce temps-là, dans le sud et dans l'est, on peut prévoir une journée plutôt bien ensoleillée, même si les nuages gagneront au fil des heures la Lorraine et l'Alsace notamment. Les températures minimales vont encore baisser un petit peu. On partira de moins 1 degré dans les Vosges pour atteindre 14 degrés à Vannes au réveil dans l'après-midi. Fourchette de 11 à 21 degrés de Dijon à Ajaccio, 13 degrés à Paris et Belfort, 15 à Saint-Brieuc, 16 degrés à Grenoble, 18 à Albi et Montauban et 20 degrés à Marseille.
Merci Valérie.
RTL Soir avec Vincent Parisot.
Sans surprise, Jordan Bardella a donc été élu président du Rassemblement National. Il l'a emporté haut la main avec près de 85% des voix face à Louis Alliot, le maire de Perpignan, lors du congrès du parti qui se déroule à Paris, qui s'achève d'ailleurs puisque le discours du nouveau président vient de se terminer. Et dans ce premier discours de président, on a entendu et vu Jordan Bardella les larmes aux yeux après avoir parlé de sa mère, rendre un hommage vibrant à Marine Le Pen.
La deuxième personne à qui je dois ce que je suis, c'est Marine Le Pen. Elle m'a donné le goût de l'engagement et la passion de ce peuple merveilleux qui est le nôtre. Je voudrais lui dire aujourd'hui toute ma reconnaissance, mais aussi ma fierté de travailler avec elle, mais surtout pour elle et à ses côtés. Marine m'a fait l'honneur de sa confiance et je voudrais devant vous à nouveau lui dire merci.
Voilà, donc Jordan Bardella, c'était il y a quelques minutes, donc après son élection à la présidence du Rassemblement National pour son tout premier discours de président. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
À 27 ans, il devient donc le troisième président de ce parti en 50 ans d'existence. Il est surtout le premier à ne pas s'appeler Le Pen.
Et oui, Jordan Bardella qui a surgi d'un décor pour son tout premier discours de président couronné. Il jette les bras au ciel, s'arrête, ému pendant son hommage à Marine Le Pen comme une réponse à ceux qui l'accusent d'être un cyborg sans chair et sans affect. Sur scène, Jordan Bardella veut convaincre que désormais il se démultipliera pour mener son parti à la victoire et à l'alternance, comme on le dit au RN, mettre ses troupes en marche pour les scrutins avec une école des cadres, mener la bataille culturelle à coups de colloques et de débats, dit À 27 ans, sa jeunesse fait parfois tousser en interne. Mais la jeunesse, c'est un défaut qui passe vite, répond-il. À la tête du parti, il devra trouver sa place de numéro 1 bis dans l'ombre d'une Marine Le Pen qui reste l'autorité suprême. Tenter d'être un peu plus qu'un superintendant chargé des gommes et des stylos, l'excite un cadre.
Une élection donc très large, on le rappelle, à près de 85%. Et pourtant, elle provoque tout de même quelques remous.
Oui, car aussitôt élu, Jordan Bardella a commencé à faire le ménage. Il a remanié les instances et rétrogradé deux de ses ennemis, Bruno Bild et Steve Briouat, des vieux routiers du RN, réputés tout puissants au sein du parti il y a quelques mois encore. Ulcérés, les deux élus du Pas-de-Calais dénoncent une purge et un virage identitaire, une re-radicalisation. Écoutez le maire des Nimbeaumont, Steve Briouat.
Tout cela s'apparente à une purge. Il y avait des gens qui portaient la ligne sociale au sein du mouvement, ils ont été éjectés. On a mis à la place des gens beaucoup plus identitaires. Jordan Bardella est identitaire, oui, c'est pas nouveau. Et j'ai pas envie que la ligne politique soit infléchie avec son arrivée.
Une sortie au vitriol et un psychodrame qui parasite le sacre du nouveau président. En réponse, Jordan Bardella a assuré qu'il ne reviendra pas aux provocations et aux nostalgies caricaturales. Marine Le Pen aime à dire que président de parti, c'est un boulot ingrat. Il n'aura pas fallu une heure à Jordan Bardella pour s'en apercevoir.
Merci beaucoup Marie Mollet qui a suivi donc ce congrès du Rassemblement National pour RTL et cette élection de Jordan Bardella donc sur laquelle on reviendra largement demain dans le MacPol, le magazine politique du dimanche soir à 18h30. Ah, c'est un phénomène quasi quotidien et qui inquiète beaucoup l'administration pénitentiaire et cela au plus haut niveau. Des drones parviennent à survoler les prisons françaises et à livrer aux détenus des produits en tout genre, des produits interdits en cellule bien sûr, Fresnes, Brest et cette semaine encore dans la nuit de jeudi à vendredi, ce que d'un dans le Nord. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Les surveillants ont intercepté 3 drones chargés de colis et l'un de ces 3 est d'ailleurs arrivé jusqu'à une cellule en 5 minutes.
Oui, à l'intérieur, les surveillants vont trouver près d'un kilo d'herbe et de cannabis, 5 téléphones, des chargeurs, des oreillettes, des cartes SIM. Ces livraisons par drone ne sont plus du tout exceptionnelles, souffle Dimitri Jouy, le représentant FO à la prison de Sequedin. Et nous n'avons pas les moyens d'y remédier, dit-il.
Quasiment toutes les nuits, il y a des livraisons de drones. Donc c'est limite un petit coup de chance qu'on ait réussi à intercepter tout ça, mais c'est devenu monnaie courante en fait. À partir du moment où on voit les quantités de stup et tout qui rentrent à l'intérieur de nos murs, il peut très bien y avoir des couteaux, des revolvers, tout ça, ça peut facilement rentrer en fait.
Un homme a ainsi été condamné pour avoir fait livrer dans la même prison à Sequedin un bout de scie à métaux de 8 cm. Quant à Fresnes, un drone s'est posé dans la cour de promenade il y a encore quelques jours. L'administration pénitentiaire sait qu'elle doit réagir. Un plan de 13 millions d'euros est sur la table pour équiper certains établissements de brouilleurs dernière génération.
Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Un hommage a été rendu aujourd'hui à Marseille victimes de la catastrophe de la rue d'Aubagne. C'était il y a tout juste 4 ans. 2 immeubles d'habitation très vétustes s'étaient effondrés, faisant 8 morts et 2 blessés. Alors en attendant le procès qui établira les responsabilités, cette cérémonie a permis bien sûr de saluer la mémoire des victimes, mais aussi le travail des secouristes. Manon Meyer.
Près de 300 personnes étaient rassemblées devant le trou béant du 63 et 65 rue d'Aubagne. À 9h05, heure où les 2 immeubles se sont effondrés il y a 4 ans, les participants aux visages graves et les yeux souvent embués de larmes se sont tus pendant une dizaine de minutes en hommage aux victimes. Puis les familles ont pris la parole, parmi elles Liliana Lalongue, maman de Julien décédé dans le drame.
Mon fils, je suis sûre qu'il doit être content où il se trouve, de voir qu'il y a des gens qui nous aident. Que les gens, quand ils passeront devant, Ils diront « Ah, là, il vivait Julien avec un petit sourire, si c'est possible. »
Dans l'assemblée, quelques élus de la mairie, mais aussi des marins-pompiers venus se recueillir. Saïda, la cousine de Chérif, une autre des victimes, tenait à les remercier.
Ils ont dormi quand même 6 jours sur place, dans des tentes, sur des lits de camp, dans le froid. C'est grâce à eux qu'on a eu des corps, qu'on a pu faire notre deuil, qu'on a pu enterrer nos morts.
Et les familles attendent encore les résultats de l'instruction et puis surtout le procès pour pouvoir enfin identifier les responsables du drame.
Manon Meyer à Marseille pour RTL. Et puis en Bretagne, la commune de Calac, qui compte environ 2000 habitants, se divise depuis plusieurs semaines autour d'un projet d'accueil de réfugiés, projet baptisé Horizon. Et ce samedi encore, opposants et défenseurs du projet se sont retrouvés pour un face-à-face à distance. Des tensions, mais pas de dérapage. Il faut dire que 200 gendarmes avaient été mobilisés sur place pour RTL. Nicolas Bobby.
En milieu d'après-midi, des militants d'extrême gauche sont partis en cortège pour en découdre avec ceux d'extrême droite. Ils ont été refoulés par les gendarmes mobiles et des nuages de gaz lacrymogène. Secrétaire de la jeunesse communiste dans les Côtes d'Armor, Flavien est favorable à l'accueil de migrants.
On dit oui, welcome, bien sûr. Tout être humain peut apporter quelque chose à l'endroit où il vit. On est aussi là parce que l'extrême droite est aujourd'hui présente dans la rue. Elle est offensive et elle ne veut pas reculer.
Co-organisateur du rassemblement anti-migrants, Pierre Cassan est le fondateur de Riposte Laïque.
70 familles donc africaines, ça fait beaucoup. Et nous, on ne veut pas du grand remplacement en Bretagne, tout simplement. Parce que l'argent qu'on met pour les migrants, on préférerait qu'il soit mis pour les familles pauvres. J'ai pas envie de manger halal, j'ai envie de manger des bons poissons.
Querelle de chiffres également, le préfet des Côtes d'Armor affirme que seulement 2 familles africaines arriveront d'ici la fin de l'année.
Reportage à Kayak, signé Nicolas Bobby. Et puis en conflit commercial depuis le mois de septembre, TF1 et Canal+ ont annoncé hier soir un nouvel accord de distribution. Le groupe Canal, je vous rappelle, avait cessé de diffuser les chaînes de TF1 sur tous ses canaux, faute d'accord financier. La perspective de la Coupe du Monde de foot qui démarre le 20 novembre rendait sans doute très urgente la signature d'un accord. TF1 en diffusera les 28 plus belles affiches. On ne connaît pas les détails financiers de ce nouvel accord. Ils n'ont pas été divulgués. On marque une courte pause. Dans un instant, la COP27 à partir de demain et déjà des activistes très mobilisés.
RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parisot.
Ce samedi a été marqué par de nouvelles actions coup de poing pour le climat en Espagne. Ainsi, 2 activistes se sont collés les mains sur les cadres de 2 tableaux de Goya au musée du Prado. Ces 2 militantes ont été interpellées, placées en garde à vue. Les tableaux ne sont pas abîmés. Et puis aux Pays-Bas, des militants de Greenpeace ont bloqué des jets privés sur l'aéroport d'Amsterdam. Une centaine d'entre eux se sont assis devant les roues et ils ont empêché les avions de décoller. Des actions qui devraient se multiplier pendant la COP27 qui s'ouvre demain à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est d'ailleurs une première pour ce continent qui subit de plein fouet les effets du réchauffement. Virginie Garin.
Oui, sur les bords de la mer Rouge, une conférence en Afrique, tout un symbole. Les Égyptiens qui vont la présider ont annoncé la couleur pendant cette COP. On va surtout parler d'argent. Les pays du Sud vont demander à ceux du Nord de les aider. Avec le Covid puis la guerre en Ukraine, leurs économies ont été fragilisées. Les prix alimentaires et de l'énergie se sont envolés. En Égypte, par exemple, le prix du pain a flambé de 50%. Ils vont donc expliquer qu'ils n'ont plus les moyens de lutter contre le réchauffement. Construire des centrales solaires, des éoliennes, tout cela coûte cher. Donc l'Europe, les États-Unis doivent les aider. Ils veulent aussi des compensations pour toutes les catastrophes qu'ils subissent. Au Pakistan, 30 millions de personnes ont été déplacées ces dernières semaines à cause d'inondations. La Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse sans précédent parce que ce sont les pays du Nord qui ont le plus pollué depuis 2 siècles et qu'ils sont responsables. Ils doivent payer. Ce sera le sujet central de cette COP africaine.
Virginie Garin qui va suivre pour RTL cette COP27 de Sharm el-Sheikh. Et au moment où cette COP s'ouvre en Égypte, RTL est partenaire du projet Reforestation. Il permet de replanter des parcelles déboisées ou ravagées. Alors sachez qu'un arbre est planté à chaque fois qu'une montre RTL est offerte à un auditeur. Dans le Grand Est ou en région parisienne, déjà plusieurs milliers d'arbres RTL ont ainsi été plantés. Et nous avons pu visiter l'un des sites concernés. C'est en Seine-et-Marne, à quelques kilomètres de Coulommiers, sur un site de 280 hectares. Hermine Leclèche.
Il faut marcher quelques dizaines de mètres dans les feuilles jaunies par l'automne pour atteindre le lieu de rendez-vous. Une parcelle forestière où se développe développe tout un écosystème. C'est Thibaut Poulain, responsable du site, qui me l'explique.
On a donc du charme, on voit là-bas un châtaignier, bien sûr du chêne.
Ici, rien n'a été planté. L'idée, c'est de protéger et développer les arbres qui poussent déjà sur le territoire.
Il va falloir qu'on aille sélectionner les plus belles perches et donc couper, casser les autres pour élire nos champions qui vont pousser plus rapidement.
Et le champion dans cette parcelle, c'est le chêne, l'une des rares espèces à supporter les variations climatiques. Car pour créer la forêt de demain, il faut penser au climat des 30 prochaines années.
On voit que les sécheresses sont de plus en plus fortes, de plus en plus longues et affaiblissent les arbres. Donc il faut se mettre en tête de diversifier au maximum, introduire des essences qui sont plus disposées aux régions sud, par exemple, du chêne pubescent, un petit peu de pin.
Reforestation se donne encore 3 ans pour accompagner cette parcelle. Plusieurs dizaines d'espèces d'arbres devraient à terme y pousser.
Reportage signé Hermine Leclèche. Et donc, à chaque fois qu'une montre RTL est offerte à un auditeur, un arbre est planté. Sachez que 32 tonnes de cannabis ont été saisies en Espagne, record mondial selon la police espagnole. C'est le bilan d'une vaste opération qui a été menée dans plusieurs villes, notamment Valence et Tolède. 20 personnes ont été arrêtées. Les concurrents de la route du Rhum et les milliers de spectateurs attendus à Saint-Malo vont donc devoir prendre leur mal en patience, prévu demain à 13h02. Le départ de la course a été décalé d'au moins 2 jours. Décision prise par les organisateurs compte tenu de la situation météo attendue en Manche sur les 36 premières heures de la course. Décision prise à contre-cœur évidemment, mais inévitable vu les conditions exécrables attendues, notamment lundi avec des rafales à plus de 50 nœuds. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir.
Alors vous aussi, vous allez devoir patienter pour nous faire vivre ce départ. Mais on pense avant tout aux skippers qui s'étaient préparés pour le jour J demain. Comment vont-ils gérer l'attente alors ?
Oui, départ reporté, cela veut dire que les skippers vont devoir s'adapter, eux qui depuis des mois avaient coché en rouge cette date du 6 novembre. Mais comme le dit François Gabart, l'un des favoris de cette 12e édition.
Bon, on va s'occuper, je ne me fais pas de soucis. Il y a du public, il y a nos partenaires qui sont venus là, donc on va essayer de partager le plus possible avec eux dans les heures et jours qui viennent. Et puis après, en effet, il va falloir vite se reconcentrer, se remettre dans sa bulle. Préparer un nouveau départ. Donc je pense que voilà, j'ai déjà regardé ce que ça pouvait engendrer en termes de stratégie en partant mardi soir, en partant mercredi matin. Donc voilà, ma tête elle est déjà partie dans un nouveau départ. Ça c'est notre job. Et puis bah voilà, c'est un peu une partie de la course, être capable de s'adapter et être capable de se réorganiser avec toute l'équipe pour en effet rester concentré parce que la course elle va avoir lieu, elle va être belle. Elle sera malgré tout très mouvementé, on va partir que ce soit mardi ou mercredi, on va partir dans des conditions de vent qui seront difficiles. Voilà, on est toujours au mois de novembre, donc il faut bien se préparer pour tout ça.
Et se préparer, c'est aussi rester dans sa bulle et attendre la date officielle et l'heure officielle du nouveau départ de cette 12e édition.
Merci Frédéric Veil. La décision sera sans doute annoncée ce soir. En tout cas, Emmanuel Macron, qui devait assister au départ, ne sera bien sûr pas présent mardi ou mercredi. Il va d'ailleurs partir plus tôt à Sharm el-Sheikh pour la COP27. Une courte pause dans un instant, tennis, foot, rugby. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parisot.
Le sport avec l'actualité en direct. On prend la direction de Bercy pour le Masters 1000 de Paris. Le Danois Holger Rune est déjà en finale. Et son adversaire de demain est sur le court en ce moment, dans l'autre demi-finale. Novak Djokovic face au grec Stefanos Tsitsipas. Isabelle Langer, c'est face à vous.
Oui, c'est face à moi. 1h41 de jeu, 1-7 partout et 3-2 pour Stefanos Tsitsipas dans le troisième set. C'est Djokovic qui avait facilement remporté la première manche 6-2. Il n'avait d'ailleurs commis aucune faute dans cette première manche. Mais Tsitsipas ne s'est pas désuni et c'est avec l'aide du public, ce que déteste un petit peu Novak Djokovic, eh bien qu'il est revenu, le grec, pour empocher ce deuxième set, 6-3. La partie est assez équilibrée entre les deux hommes. En tous les cas, on se régale parce que franchement, depuis hier, entre les quarts de finale et la première demi-finale de cet après-midi, c'était un petit peu à chaque fois des matchs à sens unique. Donc là, un petit peu de jeu, ça fait pas de mal. Donc 3-2 pour Stefanos Tsitsipas. Djokovic est au service. Djokovic qui vise quand même une 8e finale ici à Bercy. Il est tenant du titre, il en a rapporté déjà 6, alors que ce serait la première finale pour le grec numéro 5 mondial. On rappelle qu'en finale, eh bien, celui qui l'emportera retrouvera le jeune Holger Rune, 19 ans. C'est le plus jeune finaliste journaliste de Bercy depuis 1999 et un certain Marat Safin.
Voilà, Holger Rune, on prononce ça ainsi. Merci Isabelle Langer, en direct de Bercy. Sachez aussi que Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, souffre d'une déchirure musculaire. Résultat, il est forfait pour le Masters à la fin de la saison et la phase finale de la Coupe Davis. Le rugby, le 15 de France féminin est passé tout près de l'exploit ce matin, mais les Bleus sont finalement inclinés sur le fil face à la Nouvelle-Zélande. 25-24 en demi-finale de la Coupe du Monde. Il y aura donc un match pour la troisième place. Ce sera face au Canada samedi prochain. Et puis, ce soir, l'équipe de France masculine, elle, joue une belle affiche au Stade de France. Les Bleus face à l'Australie, c'est du sérieux, Jean-Michel Rascol.
Oui, le premier volet de cette tournée d'automne ce soir est loin d'être une fantaisie. Les Wallabies du rugby représentent une nation majeure qui compte deux Coupes du Monde à son palmarès. Une équipe qui aime les déplacements sans craindre les affrontements. À savourer donc sans modération. Un 15 de France emmené par son demi de mêlée conforté dans le rôle de capitaine, Antoine Dupont. Ce test face à l'Australie, comme le grand défi face au Springboks samedi prochain à Marseille, a ses yeux presque déjà le label Coupe du Monde.
C'est important de voir aussi rencontrer les nations du Sud. On sait qu'on a un peu d'occasion de jouer contre elles. Il faut se mesurer aussi au meilleur en vue de la Coupe du Monde, même si on ne les a pas dans notre poule. Il y a des chances qu'on les croise en phase finale, donc ça sera nos dernières confrontations avant la compétition, donc elle restera dans les esprits.
Un autre paramètre peut marquer les esprits, c'est l'invincibilité du 15 de France qui vise ce soir un 11e succès consécutif et qui pourrait se hisser au premier rang du classement mondial à l'issue de cette séquence internationale. Du jamais vu.
Merci Jean-Michel Rascol. Rencontre à suivre sur RTL pour une grande soirée rugby foot avec Christophe Paco aux manettes. Rugby, on l'a compris. Le foot, ce sera Angers-Lens à partir de 21h. En ce moment, Ajaccio reçoit Strasbourg et les Corses mènent toujours 4-2 à la 67e minute.
Mon métier, ma passion, Armel Lévy.
Chaque samedi, Armel, vous tendez votre micro à des hommes, des femmes qui aiment beaucoup leur métier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes rendu au Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre, organisé par les Ateliers d'Art de France. Vous avez rencontré Isabelle Emeriquet. Elle exerce le métier de laqueur à Colombes, près de Paris.
Je suis un laqueur contemporain. C'est-à-dire je fais de l'art contemporain. Je m'affirme comme un peintre. Et mon médium, c'est la laque.
En quoi consiste votre métier ?
Alors, c'est un métier qui est en fait plutôt lié à la décoration, au travail du bois, puisqu'il s'agit donc de pigments, de vernis, pour traiter le bois, pour le revêtir et l'ennoblir. Alors évidemment, ce qu'on connaît de la laque, ce sont les laques asiatiques, en premier, bien sûr, puisque la matière d'origine est asiatique. Mais il y a en France une tradition de laque européenne, plutôt appliquée aux meubles, au mobilier, qui a fait les belles heures du XVIIIe siècle, à Versailles, à Chantilly, à Fontainebleau. Et mon métier vient de là, puisque moi, je fais de la laque européenne.
Mais c'est très artistique, ce que vous faites.
Alors l'idée, moi, je suis quand même quelqu'un de social. Voilà, c'était pas de faire ce qui se faisait au 18e, ça m'a jamais intéressé. J'ai appris, j'ai pratiqué. Alors la valeur ajoutée que certains laqueurs apportent à ce métier qui est vraiment issu de l'artisanat en fait, c'est une valeur artistique de conception. Ce sont des pièces uniques, des œuvres d'art qui sont vraiment des œuvres de l'esprit et qui peuvent, par retour, donc, intégrer un intérieur et devenir de la décoration. Mais ce n'est pas le premier but, en fait. Mais les œuvres d'art sont faites pour embellir la vie.
Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce métier ? C'est le contact avec la matière ?
Oui, je pense que tout praticien d'un métier d'art aime le contact avec la matière. Moi, ce que j'aime dans cette matière, c'est que c'est une matière qui demande du temps parce qu'une couche peut mettre 24 heures comme 3 semaines à sécher. Et ce temps, c'est vraiment quelque chose que j'aime. On est un peu à contrario de notre époque et j'aime aussi ça. Et je suis vraiment tombée en amour avec ce métier. Ça m'a saisie, je suis d'un amour fou qui perdure depuis 45 ans. C'est certainement ma liaison la plus longue.
Beau métier, hein, laqueur. Et si vous êtes intéressé, tiens, sachez qu'Isabelle Emeriquet, qui est membre des Ateliers d'Art de France, forme des stagiaires dans son atelier de Colombes. Merci Armel, à la semaine.